Médée et Circé incarnent la grande loi des indistinti confini, de la contiguïté universelle. Mais au fond, elles sont comme tous les autres personnages, en ceci qu'elles sont mues par les passions. Et ce sera mon dernier point. C'est son amour pour Jason qui fait de Médée non seulement une meurtrière, mais un agent transformateur. Quant à Circé, Ovide la montre successivement amoureuse de Glaucus, d'Ulysse et de Picus, et provoquant pour parvenir à ses fins de multiples transformations. L'unique moteur du processus général de métamorphose est le règne des passions, force contaminatrice par excellence, qui diffuse ses ravages jusque dans les corps des êtres et au-delà dans le corps d'un monde, lui-même en proie à un état passionnel. J'évoquais, avec le texte 10, l'épisode d'Aglauros. Cette pétrification, qu'Ovide compare à la progression d'un cancer, est en fait une contamination sur une contamination. Le récit se termine par cette précision. La pierre n'était plus blanche, son âme l'avait noircie. Et Ovide écrit « infecerat », qui signifie « infecté » et pas « noirci ». Or, à l'origine, il y a une passion infligée à la jeune fille par la déesse Minerve pour avoir trahi un secret divin. Cette passion, c'est l'envie. Minerve s'est rendue dans la demeure de la déesse Envie elle-même, Inuidia en latin, dont tout le portrait parle de souillure et d'infection, texte 16. La pâleur siège sur ses traits, tout son corps est décharné, son regard n'est jamais droit, un tartre livide couvre ses dents, un fiel verdâtre remplit son cœur, sa langue est humectée de venin, elle ignore le sourire, sauf celui que fait naître sur ses lèvres la vue de la douleur. Elle ne goûte jamais les douceurs du sommeil, tant elle est agitée par des soucis vigilants. Mais elle voit avec dépit les succès des hommes et se dessèche à les voir. Elle déchire et se déchire en même temps, et c'est là son supplice. Inuidia va, sur l'ordre de Minerve, visiter Aglauros dans son sommeil et insinuer en elle l'envie qui, la consumant de l'intérieur, la conduira à défier Mercure et finalement à se pétrifier. C'est une contagion que nous décrit alors Ovide, texte 17. Elle lui touche la poitrine de sa main couleur de rouille, lui remplit le cœur d'épines acérées, lui souffle une haleine pestilentielle, distille à travers ses os et répand au milieu de ses poumons un venin noir comme la poix. Il y a dans les métamorphoses plusieurs passages métaphoriques comme celui-là où se manifestent d'autres passions ou d'autres instances liées aux passions, telles la faim, le sommeil ou la rumeur. Mais l'épisode d'Aglauros est l'un de ceux qui représente le mieux le fonctionnement symbolique et poétique de la métamorphose ovidienne. Il nous dit en effet que l'altération des formes physiques est toujours une translation des passions sur les corps, et que cette translation est rendue possible par la précarité générale des frontières. En ce sens, les personnages métamorphosés dont Ovide nous raconte l'histoire apparaissent comme des témoins de la grande caractéristique du monde qu'est pour lui l'hybridité. Les métamorphoses nous disent que l'univers est tout entier livré aux passions, que pour cette raison, la matière qui le constitue peut sans cesse se transformer, et que tout est donc hybride, autour de nous et en nous. C'est ce que nous crient les êtres condamnés à subir dans leur chair l'horreur d'une forme double, comme Scylla, victime au livre 14 de la jalousie de Circé, texte 18. La déesse infecte à l'avance cet asile, elle le souille de ses poisons monstrueux, elle y verse les sucs qu'elle a exprimés de racines vénéneuses, et avec un obscur amalgame de mots inconnus, elle compose un chant magique que sa bouche murmure 3 fois 9 fois. Scylla arrive. À peine est-elle descendue dans l'eau jusqu'à la taille qu'elle aperçoit autour de ses deux aines une hideuse ceinture de monstres aboyants. D'abord, ne pouvant croire qu'ils font partie de son corps, elle veut fuir. Elle repousse ces chiens menaçants dont les crocs l'épouvantent. Mais elle a beau fuir, elle les entraîne avec elle. Elle examine sa personne, cherchant ses cuisses, ses jambes, ses pieds. Elle ne trouve à leur place que les gueules béantes d'une meute de cerbères. Elle ne reste debout que grâce à ses chiens furieux. Elle voit au-dessous d'elle les croupes de ces animaux sauvages qu'elle retient, assemblées par ses aines mutilées et par ses flancs qui dominent toute la troupe. C'est ce que nous crie au livre 3 Actéon, dont le corps de cerf, sur le point d'être dévoré par ses propres chiens, abrite une âme humaine et dont la division intérieure résume tout l'enjeu symbolique de la métamorphose ovidienne. Texte 19. Elle, il s'agit de la déesse Diane, fait naître sur la tête ruisselante du malheureux les cornes du cerf promis à la longévité. Elle allonge son cou, termine en pointe le bout de ses oreilles, change ses mains en pieds, ses bras en longues jambes et couvre son corps d'une peau tachetée. Elle y ajoute une âme craintive. Le héros, fils d'Autonoé, prend la fuite et, tout en courant, s'étonne de sa rapidité. Lorsqu'il aperçut dans l'eau sa figure et ses cornes, « Suis-je assez malheureux ? » allait-il s'écrier, mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Il gémit. Ce fut tout son langage. Ses larmes coulèrent sur une face qui n'était plus la sienne. Seule sa raison lui restait encore. C'est ce que nous crie au même livre Narcisse, qui lui aussi a découvert dans l'eau sa propre apparence et qui en est tombé amoureux au point d'en mourir, désagrégé de l'intérieur par le désir de s'unir à cet autre dont il sait que c'est lui-même. Et il y a là une forme particulièrement poignante d'hybridité. Texte 20. Mais cet enfant, c'est moi. Je l'ai compris et mon image ne me trompe plus. Je brûle d'amour pour moi-même. J'allume la flamme que je porte dans mon sein. Que faire ? Attendre d'être implorée ou implorer moi-même ? Et puis, quelle faveur implorer maintenant ? Ce que je désire est en moi. Ma richesse a causé mes privations. Oh, que ne puis-je me séparer de mon corps ? Vœu singulier chez un amant, je voudrais que ce que j'aime fût loin de moi. L'impact, sans cesse renouvelé au fil des siècles, des métamorphoses d'Ovide et leur capacité constante à nourrir la création dans tous les champs de l'art viennent de la puissance d'évocation et d'identification des aventures individuelles ou collectives dont elles sont tissées. Et la force de ce poème tient en grande partie à ce que toutes ces aventures sont des drames de l'hybridité. Avec pour formule matricielle l'expression oxymorique de Narcisse, iste ego sum, littéralement « lui c'est moi » ou « je suis lui ». Dire plus de 200 fois différemment l'indicible, l'impensable qu'est la transformation d'un corps en un autre, aller se situer dans le temps suspendu et paroxystique où, sous le choc d'une passion, deux formes en viennent à se rencontrer et à coexister, c'est nous faire entrer dans un monde conçu comme une interface sensible où tout se contamine. Les implications d'une telle conception sont immenses et elles nous concernent directement. Et j'en arrive à ma conclusion. Elles sont d'abord intellectuelles, œuvre d'un esprit dont la souveraine indépendance est affirmée par le prologue, c'était le texte 1, les métamorphoses accueillent comme un creuset tous les ancrages historiques, philosophiques, scientifiques, etc., qui entrent eux aussi dans un processus réciproque d'affection, de contagion, de fusion, et se trouvent transformés et dépassés par une représentation de l'univers sous la forme d'un enchevêtrement vivant et créateur, d'un lieu de contamination et de mutation permanente, avec comme grammaire fantasmatique, l'art de la variation, déployé par Ovide pour dire la métamorphose. L'humanité en crise de ce début de XXIe siècle a tout à gagner à lire et relire le message ovidien et à le mettre en pratique dans son rapport à un écosystème dont elle a tant contribué à altérer l'équilibre entièrement fondé sur la perméabilité, la synesthésie, la transformation et l'hybridité. La portée de ce message concerne aussi l'idée qu'Ovid se fait de la littérature et plus largement de l'art. Car les métamorphoses réalisent dans leur substance même la représentation du monde dont elles sont porteuses. Soutenues par une structure arborescente, dont les ramifications forment un tout organique, profondément ordonné dans la liberté de son foisonnement, ouvert à tous les genres, formes et tonalités, et à toutes les influences littéraires et artistiques, ayant pour sève une langue travaillée pour rendre toutes les variations des passions et toutes les manières dont les corps se transforment, le poème se déploie sous nos yeux, en miroir de son sujet et de la vision que celui-ci sert à exprimer, comme une zone symbiotique et syncrétique, rendant compte de la continuité universelle et de la contiguïté universelle, et accueillant toutes les métamorphoses et tous les hybrides qu'elles produisent. La nouveauté de cette approche du monde et de la création est enfin porteuse d'une véritable subversion politique. Car non seulement les métamorphoses sont un poème de l'impermanence et de l'instabilité, en un temps où Auguste, le premier empereur romain, diffuse au contraire, notamment par l'art, une idéologie fondée sur l'immuabilité de la paix revenue grâce à lui, mais elles sont, malgré les drames qu'elles renferment et le cri d'alerte qu'elles représentent, un poème fondamentalement heureux qui, comme les portes du soleil dans mon texte 4, place la métamorphose au cœur d'un monde beau est beau parce que tous ces éléments sont reliés les uns aux autres, affectés les uns par les autres. Un monde qui, pour cette raison même, est doté d'une résilience et d'une créativité infinie, avec ou sans l'humanité. Il y a là un discours visionnaire et libérateur, précieux dans les temps de mutation et de doute qui sont les nôtres. Mais on perçoit aussi la menace représentée par une telle poésie pour tout ce qui, au contraire, veut figer les équilibres, les systèmes, les pouvoirs dans un système de valeurs à la fois anthropocentré et impérialiste. Ovide fut relégué en 8 après Jésus-Christ par Auguste aux confins de l'Empire romain sur les bords de la mer Noire où il mourut en 17. Nous ne savons pas quel fut l'événement déclencheur de cette décision, mais il est certain qu'elle s'ancra dans une colère bien plus ancienne à l'égard d'un poète non manipulable qui portait sur le monde un regard critique, ironique, corrosif et qui décrivait avec une acuité intolérable pour le prince, la versatilité et la fragilité de tout. Tout sauf l'art, comme le montrent les derniers vers des Métamorphoses, texte 21. Et maintenant, j'ai achevé une œuvre que ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer, ni le temps vorace ne pourront détruire. Quand il le voudra, que ce jour, qui n'a de droit que sur mon corps, mette un terme à la durée incertaine de ma vie. Dans la meilleure partie de moi-même, cependant, je serai transportée, immortelle, très haut, au-dessus des astres, et mon nom sera ineffaçable. Aussi loin que s'étend sur les terres domptées la puissance romaine, je serai lue par la voix du peuple. Et pour tous les siècles, c'est par ma gloire que, si les prédictions des poètes comportent quelques vérités, je vivrai. Merci beaucoup.